Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est en forme ce matin, cet après-midi? C'est difficile. Alors, à mon tour, je vais vous souhaiter une bonne année. Ce que je veux pour chacun d'entre vous, c'est plus de Jésus. Je crois qu'on a besoin de rien d'autre que de Jésus dans nos cœurs et Jésus dans nos vies. Le titre de ce message, c'est « Bonnes résolutions ». Les bonnes résolutions, on en parle souvent. À cette période de l'année, on va commencer tout de suite la lecture dans la deuxième épître de Pierre, au premier chapitre, et on va lire des versets 3 à 11. De Pierre, premier chapitre, versets 3 à 11, je vous lis dans la version seconde 21. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. On débute aujourd'hui le premier jour de cette nouvelle année, de cette année 2017. Le mois de janvier, c'est le mois où, souvent, on prend le temps de souhaiter de bonnes choses à ceux qui nous entourent. On prend le temps de souhaiter le meilleur à nos amis, à nos proches, à nos collègues, à tous ceux qui gravitent autour de nous. Alors qu'on souhaite le meilleur pour nos amis, peut-être parfois dans les défis qui s'annoncent à eux, on souhaite aussi également la santé, on souhaite que tout le monde puisse avoir une bonne santé. En fait, on souhaite vraiment le meilleur pour ceux qui nous entourent. C'est aussi une période qui marque le temps où chacun d'entre nous, après avoir fait le bilan de l'année écoulée, on souhaite faire des changements dans nos vies. Je ne sais pas si c'est votre cas. Les fêtes viennent de s'écouler, succession de repas. On se couche tard, on mange beaucoup. 25 décembre, j'ai l'impression d'être jamais sorti de table. C'était incroyable, de midi jusqu'au soir, j'étais à table. Et puis, quand on sort de ce temps, on se dit « Ah, c'est peut-être bon. » Et je me dis « Raymond Pierre, c'est peut-être bon de reprendre un peu le sport. » D'autres disent « Moi, je vais arrêter de fumer. » D'autres, je vais ralentir ma consommation de boissons. C'est une période propice à beaucoup de vœux. Mais malheureusement, ces vœux restent souvent sans lendemain. Plusieurs prennent des abonnements en salle de sport, qui payent 60 euros par mois. On y va une à deux fois. Et puis tout d'un coup, l'élan ou l'excès de courage qu'on avait, il commence à s'estomper. Et puis finalement, on ne profite plus de cet abonnement. Ce matin, cet après-midi, on va voir qu'en tant que croyants, nous sommes également invités à faire un bilan pour nos vies spirituelles. Nous sommes invités à examiner nos voies, nous sommes invités à prendre des décisions et faire des choix stratégiques pour notre croissance spirituelle. Et la parole de Dieu nous invite à être résolus pour ces choses, à faire des résolutions. Et on va voir qu'il est impossible pour nous de tenir les résolutions spirituelles que nous pouvons prendre, aussi belles soient-elles, si on ne réalise pas, si on ne comprend pas, si on ne se conforme pas au fonctionnement de la vie spirituelle. Premier point qu'on voudrait regarder aujourd'hui, c'est que la puissance de Dieu est nécessaire et suffisante pour vivre en disciple de Jésus au sein de notre société. La puissance de Dieu est nécessaire et suffisante pour vivre en disciple de Jésus au sein de notre société. Je relis le verset qu'on a lu tout à l'heure, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Premier principe qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu a tout mis à notre disposition. Nous n'avons besoin de rien de plus que ce que Dieu nous a déjà accordé. Puisque en lui, nous avons tout ce qui est, et le texte nous le dit, nécessaire. Le danger pour le croyant, c'est de douter de ce que Dieu a tracé comme chemin pour sa vie. Ou de croire peut-être que peut-être des gens ou des situations vont pouvoir être une entrave à la destinée que Dieu a prévue pour nous. Vous savez, lorsqu'on commence à douter de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on commence à chercher des moyens de satisfaire par nous-mêmes ce dont nous estimons avoir besoin. Quand on commence à douter de Dieu, on cherche à pallier par nous-mêmes à ce qu'on estime avoir besoin pour avancer. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu quoi que ce soit de plus, comme s'il nous manquait quelque chose. Nous avons à notre disposition toutes les ressources spirituelles pour vivre notre vie chrétienne, pour vivre notre marche avec Jésus, pour vivre notre vie de foi. Le passage qu'on vient de lire nous indique que par notre appartenance et par notre relation avec Jésus, ce dernier nous assure par sa gloire et par sa force l'assurance de ses promesses. John Bunyan, qui a écrit le livre « Le voyage du pèlerin », a fait cette citation. « Le chemin de la vie est parsemé d'une telle abondance de promesses de Dieu qu'il est impossible de faire un pas sans marcher sur l'une d'elles. » Il est impossible d'avancer dans la vie sans marcher sur une promesse de Dieu. La Bible contient plus de 30 000 promesses pour la création, pour nous. Ça veut dire que les promesses de Dieu nous sont assurées. Non pas parce que je pourrais mettre en place comme système pour les obtenir, mais simplement parce que c'est Dieu lui-même qui est le garant de la promesse. Un des petits-fils de Billy Graham a écrit un livre qui s'appelle « Jésus plus rien égale tout ». On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose à Jésus dans nos vies, parce qu'en Jésus, on a déjà tout. En Jésus, on est déjà accompli. Parce que Dieu a promis, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est juste, je n'ai pas à douter. Sa grâce, autrement dit sa puissance, dans ma vie, et doit être mon assurance. Sa grâce manifestée dans ma vie doit être mon assurance. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a fait cette déclaration. Il dit « Semblable à des souris mourant de faim alors qu'elles sont dans les greniers du Pharaon, les chrétiens semblent parfois oublier qu'ils ont tout pleinement en Jésus-Christ. » On a un trésor infini à notre disposition, mais parfois on ne se rend même pas compte de la grâce que Dieu nous accorde. Le fait qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. On n'a besoin de rien ajouter à notre vie de plus que Jésus, parce que Jésus est notre tout. Tout comme sa puissance nous sauve initialement, de même sa puissance nous soutient quotidiennement. Sa puissance a été là pour nous sauver, pour venir nous chercher un jour. C'est cette même puissance qui est à l'œuvre dans ma marche au quotidien et qui me soutient et qui me permet de tenir ferme. Puisque j'ai tout pleinement en Jésus, puisqu'il est mon assurance, puisqu'il est notre assurance, puisque vous avez tout en lui, on va regarder comment cette assurance doit se traduire dans notre quotidien. Le deuxième point, c'est que la foi se traduit par l'intégrité. Versets 4 et 5. « Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. » Ce qui est important, ce n'est pas de savoir et de répondre à mes envies, c'est pas de connaître mes envies, mes petits désirs, et puis de savoir comment y répondre. Mais ce qui est important, c'est de vouloir vivre ce que Dieu veut et désire pour moi. Ce qui n'est pas important, ce n'est pas mes petites envies, mes petits désirs, de comment je pourrais atteindre ce que j'ai envie d'avoir. Ce qui est important, et la question que nous devons nous poser en tant que croyants, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Seigneur, qu'est-ce que tu as décidé pour moi. Lorsqu'on n'est pas dans cette démarche de vouloir vivre et de chercher le royaume de Dieu pour nos vies, vous connaissez tous Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand on n'est pas dans cette disposition de vouloir rechercher premièrement le royaume de Dieu pour nos vies, c'est qu'on va vouloir vivre autre chose. Vous savez, la nature est la horreur du vide. Et on essaie toujours de combler nos cœurs par quelque chose. On va essayer de vivre autre chose, peut-être qu'on va désirer ce que d'autres ont. C'est ce qu'on nomme dans le passage de convoitise. Quand on désire avoir ce que quelqu'un d'autre a et qu'on voudrait s'approprier pour soi, c'est ce qu'on appelle de la convoitise. Et quand on cherche à obtenir ce que nous convoitons, ben souvent, pour avoir quelque chose qui n'est pas de nous, on va devoir user de mensonges, on va user de ruses, de stratagèmes pour les avoir. Et ça, c'est ce qu'on appelle la corruption. Convoitise et corruption, c'est ce que nous voyons dans ce passage. J'ai, dans ma vie, essayé d'avoir des choses par mes propres forces. J'étais en école de police, tout allait bien. Puis je voulais absolument être policier à Charleville. Je voulais rentrer dans les Ardennes. Mon objectif, c'était les Ardennes. Et donc, du coup, ben, comme on connaissait le député du village d'à côté, on a dit, on va faire un beau courrier pour qu'après mon école de police, je puisse être affecté hors classement directement là où je souhaitais arriver. Donc, le député prend notre courrier, tout ça, il écrit à un autre député dans la Marne. Et puis, tout ce courrier-là arrive à M. Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. Puis, je reçois une belle lettre qui me dit que le classement de la police, ça se fait selon un classement, mais qui se réservait le droit d'étudier mon corps. Et puis heureusement, le Seigneur n'a pas obéi à tous ces stratagèmes mis en place par ma personne et mon papa à l'époque, mais à ce moment-là. Mais en fait, j'ai essayé d'avoir quelque chose par mes propres moyens, alors que Dieu avait quelque chose de plus grand. Alors bien sûr, jamais j'ai eu de nouvelles, j'ai choisi Colmar. Et puis j'ai reçu après un courrier du ministère de l'Intérieur qui dit ben, finalement vous êtes affecté à Colmar. J'ai pas dit je le fais, c'est moi qui ai choisi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'aurais jamais pu accomplir le plan de Dieu si j'étais pas arrivé à Colmar. Parce que Dieu nous voulait en Alsace à ce moment-là. Dieu préparait déjà ce qu'il avait voulu pour ma vie. Et heureusement qu'il n'a pas écouté mes petits désirs. Et qu'il a plutôt écouté les prières de celle qui allait devenir mon épouse qui disait mais qu'est-ce qu'il fait ? Des fois, on essaye d'user de stratagèmes et de toutes sortes de solutions pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est d'accomplir ce que Dieu veut. Quand on est dans le plan de Dieu, alors tout se place, tout se met en place. Alors des fois, on ne comprend pas tout ce qui se passe à chaque instant. Mais quand on prend du recul sur notre vie, qu'on regarde en arrière, on dit, mais Seigneur, je comprends tout ce que tu as mis en place. Tu étais déjà au contrôle. Tu contrôlais déjà toutes choses, alors que même que moi, j'essayais de manipuler ma situation, de ce qui allait m'arriver. Le Seigneur est au contrôle. Dans ce passage, je ne sais pas si vous l'avez noté, quand on a lu tout le passage, on nous parle que ne pas être participant de la nature divine. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce verset. Alors, on est participant de la nature divine. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que quand on nous parle d'être participant de la nature divine, on nous parle d'être intègre. On ne nous dit pas « je fais des choses puissantes, je guéris des malades, je ressuscite les morts », même si c'est des choses qu'on aspire en tant que chrétien. Mais l'association de participants de la nature divine est faite avec l'intégrité. Jésus était un modèle d'intégrité. Jésus ne cherchait rien pour lui, il cherchait tout pour les autres. Il cherchait à accomplir ce que Dieu avait prévu, ce que le Père avait prévu pour lui, pour sauver l'humanité. Puisque Dieu sait ce qu'il veut, et puisqu'il assure l'accomplissement de ses promesses, nous sommes encouragés à être intègres et à refléter Christ dans nos attitudes. Nous sommes appelés à manifester la vie de Dieu et non la corruption. Le mot corruption dans la Bible, ça nous parle de choses qui se décomposent ou des choses qui sont en train de pourrir. Parce que les promesses de Dieu et la puissance de sa grâce sont à notre disposition, nous avons les moyens de vivre une vie de qualité morale ou une vie de vertu dans les anciennes versions. Le mot grec décrivant cette vertu, ce passage, nous parle d'une énergie morale, d'une puissance donnée et communiquée par Dieu qui produit des actes d'excellence. C'est une force de caractère qui nous aide à rester intègre et fort, même lorsque tout s'effondre autour de nous. On est tous appelés à être intègres. Je ne sais pas ce que vous vivez, peut-être dans vos sociétés, où vous travaillez. En tant que croyant, des fois, on doit se positionner. Est-ce que je vais rentrer un petit peu dans le jeu de mon patron qui veut que je m'agouille de trois trucs pour essayer d'obtenir ses faveurs? m'angoisse que parce que je crois que Jésus est celui qui est au contrôle, que donc je n'ai pas à m'inquiéter. Je dois rester fidèle et intègre à mon Dieu, sachant que lui sait ce qu'il fait avec ma vie. En tant que croyant, on doit se positionner sur ces choses. Est-ce que je peux me permettre de jouer, flirter avec la ligne, ou est-ce que, à l'image de ce que la parole m'invite à faire, à chercher à être intègre, sachant que ma vie, elle est en Christ, sachant que ma vie, elle est dans le creux de ses mains, et que lui sait ce qu'il fait avec ma vie. Ensuite, la foi se vit dans la communion avec Jésus. On va relire encore ce verset, mais pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la persévérance, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Cette première lettre de Pierre a été écrite pour lutter contre des hérésies qui commençaient à entrer dans l'Église et qui donnera naissance au gnosticisme au début de la deuxième partie du premier siècle. Ce courant de pensée laissait entendre qu'il y avait une connaissance cachée qu'il fallait apprendre à maîtriser afin de pouvoir être pleinement sauvé et libéré. Il faut savoir que quand Pierre écrit cette lettre, il allait bientôt mourir, peut-être une ou deux années avant qu'il meure. C'est les conseils d'un papa spirituel au peuple de Dieu pour leur dire « Vous n'avez pas besoin de chercher autre chose que ce que vous avez déjà en Jésus-Christ. » Tout ce courant disait « Il y a besoin de chercher à améliorer la pensée, à améliorer la connaissance. » Aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve dans les milieux New Age. J'avais un cours sur le mal et la souffrance à faire il y a 2 ans pour l'école biblique et le professeur voulait absolument qu'on participe à un salon de la voyance et de l'ésotérisme. Donc on n'avait pas le choix et puis comme par hasard, il y en avait un week-end d'après chez moi. Alors je vais à ce salon puis je discute un petit peu, donc je me présente, je suis étudiant d'école biblique. Tout ça. Les gens, ils discutaient, c'est bien tout ça, mais ils me disaient, tu sais, il y a plus que la Bible. Un gars, il me disait, oui, la Bible, c'est bien, mais il y a plus. Tu passes à côté de quelque chose. Il y a toujours cette mentalité de, c'est pas suffisant avec Dieu. Il y a quelque chose de caché, il y a des mystères à découvrir. Et tous étaient un peu dans cette mentalité de, il faut que je découvre des choses à l'intérieur de moi. Alors ça se manifeste d'une façon ou d'une autre, hein, parce que le New Age, c'est vraiment un mélange de tout. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme. Mais il y avait vraiment cette chose de, la Bible n'est pas suffisante. Ta relation avec Dieu n'est pas suffisante, il y a plus. Pierre rappelle que nous avons tout pleinement et suffisamment en Christ. On a lu le mot connaissance 16 fois. Le mot connaissance sous différentes formes est employé dans cette lettre de Pierre. Et la solution que Pierre propose aux croyants pour rester ferme, c'est de cultiver sa relation et sa connaissance de Dieu par la méditation de la parole. C'est de cultiver sa relation avec Dieu par nos temps de prière au quotidien, de rechercher ce que la parole de Dieu a à nous dire. Rien de nouveau, si ce n'est de creuser la parole de Dieu, de creuser, de développer, de continuer à bâtir cette relation avec Dieu. Comme le souligne John MacArthur, la connaissance de Christ, dont il est question ici, n'est pas une connaissance superficielle, ni une simple prise en compte des vérités relatives à Christ. C'est pas juste de savoir des choses sur Dieu qui font de nous un bon chrétien. Vous savez, il y a plein de gens qui sont intellectuels, qui connaissent la Bible par cœur, mais qui ne vivent rien avec Dieu. On peut connaître des Écritures par cœur, connaître des choses à propos de Dieu, mais ne pas connaître Dieu. Ce que Pierre nous invite ici, c'est une relation intense avec Dieu, une dépendance à Jésus. C'est un partage, comme le dit MacArthur, un partage véritable et personnel de vie avec Christ. Est-ce que j'ai un véritable partage de vie avec Jésus? Où est-ce que j'en suis dans ma relation à Dieu? Chercher autre chose que ce que la parole de Dieu nous dit va contribuer à saper notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu, et donc ça va saper notre relation avec Dieu, et ça va nous faire agir en conséquence. Quand le doute s'installe, on va commencer à poser d'autres actions qui vont être la conséquence de ce que nous croyons. Si on laisse place au mensonge en nous, on va agir en fonction des mensonges qu'on croit. Mais si on laisse la parole de Dieu infuser en nous, si vraiment c'est elle sur laquelle on s'appuie au quotidien, cette relation intense avec Jésus, alors on va agir en conséquence. Quatrième point, c'est que la foi se traduit par la maîtrise de nous-mêmes et par la persévérance. Je relis encore ce verset, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. À l'époque de Pierre, on parlait de maîtrise de soi à propos des athlètes qui devaient se contrôler, qui devaient se discipliner. Un chrétien doit maîtriser la chair, c'est-à-dire sa nature, sa vieille nature corrompue. Cette nature qui est encline à faire le mal, à prendre de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions. Cette mauvaise nature qui a des mauvaises passions. Donc on est invité en tant que chrétien à dominer ses passions et ses mauvais désirs. Et Jésus sait que ce combat est mené par chacun d'entre nous. Alors qu'il était dans le jardin de Gethsémani, il a déclaré « L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Ce n'est que par notre relation avec Jésus que nous allons pouvoir être alimentés dans nos forces afin que notre qualité morale que nous avons vue tout à l'heure va pouvoir être manifestée et même dans des temps difficiles, même dans les saisons les plus compliquées de nos vies. C'est que par cette relation à Dieu qu'on va pouvoir manifester cette force morale, ce caractère moral, qu'on va pouvoir manifester cette maîtrise de soi et cette persévérance. L'apôtre Paul a écrit dans Galates 5, 18 « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il faut tout faire pour lutter contre nos mauvais désirs afin de pouvoir marcher par l'esprit. Il ne dit pas « Faites tout pour eux. » Et voilà, il faut que je me discipline, que je me discipline, et que je me discipline, et que je m'interdis, pour peut-être essayer de marcher par l'esprit. Non, c'est marche par l'esprit. Et alors, tu vas avoir la victoire sur les désirs de ta nature propre. Et nous avons besoin de marcher par l'esprit, c'est-à-dire nous laisser diriger, nous laisser influencer par Dieu, afin de ne pas accomplir nos mauvais penchants. Avec Jésus, il est possible de marcher en vainqueur, même lorsque tout s'effondre autour de nous. Le psalmiste posera cette question dans le psaume 11, verset 3, « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Alors que toute notre société, toutes les valeurs s'effondrent autour de nous, quelle attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que nous devons manifester à ceux qui nous entourent au quotidien? Verset 7, le psalmiste y répond. Il dit que Dieu aime la justice et que ce sont les hommes droits qui contempleront son visage, qui contempleront sa face. Nous sommes invités à rester fermes et intègres en Christ, au sein de notre génération, si perverse, si méchante, si corrompue soit-elle. J'ai lu une biographie de Dietrich Bonhoeffer, je pense que vous connaissez, c'était un pasteur pour nous, qui en 39-45 aurait pu fuir aux États-Unis, avoir sa place, mais il a senti dans son cœur qu'il devait rester au milieu de son peuple. Il y avait un peu, l'église protestante était un peu divisée en Allemagne à cette époque-là, il y avait l'église du Reich, et puis l'église des gens professants qui ont dit « Nous, on reste accrochés aux Écritures ». Dietrich Bonhoeffer aurait très bien pu couler sa petite vie douce aux États-Unis à enseigner des cours, mais Dieu avait mis dans son cœur qu'il devait être en Allemagne. Et peut-être quelque chose comme 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, avant la libération des nazis, alors qu'ils étaient déjà vaincus. Mais il a fait preuve de cette détermination, un petit peu comme on voit dans le livre de Daniel. Sache au droit que Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais quoi qu'il en soit, on se prosternera pas devant toi. Cette détermination de dire jusqu'au bout, je veux marcher droit pour Dieu. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il en coûte, je veux marcher droit pour toi. Par la grâce de Dieu, nous sommes invités à faire ce qui est juste, et ce, avec persévérance. La persévérance nous aide à tout supporter dans une attitude d'espoir. C'est ce qu'on dit tout le temps quand on dit le meilleur est devant. Le meilleur avec Jésus devant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire que tout va être facile. Mais le meilleur est devant parce que je vais m'appuyer sur Jésus. Le meilleur est devant parce que ma vie, elle est cachée avec Christ. Le meilleur est devant parce que mon nom est inscrit dans mon livre de vie. Le meilleur est devant parce que je sais qu'un jour, toutes les larmes de mes yeux seront essuyées. Comme on l'a chanté, Jésus va revenir. On sera avec lui pour toujours, plus souffrance, plus douleur, plus de larmes. Mais en attendant, Seigneur, donne-moi la force de rester droit. Donne-moi la force de marcher droit pour toi. De ne pas me laisser corrompre par le système autour de moi. Mais Seigneur, de refléter ton nom, ton étendard. Par moi-même, je ne peux pas le faire. Mais par ta grâce, par ta puissance qui s'accomplit en moi, c'est possible. C'est ce que l'apôtre Paul dira. ma grâce te suffit. Ta puissance s'accomplit au sein de notre faiblesse, au sein de nos combats, de nos difficultés. Dieu veut déverser sa grâce et sa puissance. Nous avons une mission en tant que croyants. C'est refléter la lumière tant qu'il fait jour. Refléter cette lumière de Christ tant qu'il fait jour. Parce qu'il y a un temps viendra difficile où plus personne ne peut travailler. Mais nous sommes appelés à faire la différence, à refléter cette lumière de Christ pour que ceux qui sont autour de nous voient la différence. C'est le message de l'Évangile. Tout supporter dans une attitude d'espoir en nous attendant à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Cinquième point, la foi et la vie de piété sont traduites par l'amour. On parlait tout le verset, mais on va finir à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. La piété, c'est vivre avec respect, loyauté et obéissance envers Dieu. Cette vie manifestée nous conduit à vivre l'amitié fraternelle et l'amour. L'amour, vous savez, c'est l'opposé des désirs égoïstes, puisque l'amour, c'est quelque chose qui se donne. L'amour, c'est quelque chose qu'on communique. L'amour, c'est rechercher le bien de l'autre. L'amour, c'est quelque chose de désintéressé. Paul décrit parfaitement ce que c'est l'amour dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne se fample pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quelle image de ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes invités à vivre ces choses. L'amour des filles ici reflète ce que Dieu a manifesté pour nous en offrant son propre Fils pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé à son propre intérêt au mourant de la croix, mais il a regardé à notre intérêt. Il a regardé au nôtre. Nous sommes invités à rechercher l'intérêt des autres avant de l'autre. Aimer, c'est chercher le bien de l'autre. C'est rechercher à communiquer la grâce de Dieu à ceux qui sont autour de nous avant de se servir seulement. On va arriver à la conclusion. Le programme de Dieu pour chacun d'entre nous, dans ces quelques versets, on est invité à être résolu. Alors qu'une nouvelle année s'adresse devant nous, ma prière pour les pieds, pour moi-même, c'est qu'on soit résolu à marcher droit pour le Seigneur. Pas en essayant de l'accomplir par nos propres forces et puis pour dire « t'as vu moi où j'en suis, t'as vu toi où t'en es ». C'est tout l'inverse de ce qu'on vient de lire dans le passage de Paul aux Corinthiens. Mais c'est dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce parce que sans toi, je suis perdu. » Mais tu m'assures quelque chose, c'est que il y a des promesses qui sont avec toi. Elles sont vraies, elles sont sûres, elles sont fidèles. Les promesses de Dieu sont fidèles pour chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous puisse examiner nos vies. Peut-être qu'on a failli dans un ou plusieurs des domaines qu'on a évoqués, peut-être au travail, dans l'intégrité, peut-être dans la persévérance, j'ai failli en 2016. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus. Parce qu'il nous donne l'assurance qu'il va accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir pour nous. Nous avons à notre disposition par la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Cette grâce qui est un appui, cette grâce qui est un soutien, cette grâce qui est le moyen de vivre et de traverser cette année de manière victorieuse. Nous avons tout pleinement en Jésus et sa présence est pleinement suffisante dans nos vies. Elle nous assure la présence de Dieu à nos côtés, le soutien de Dieu à nos côtés. Et nous sommes invités à ne pas négliger cette présence. Et si nous ne la négligeons pas, nous ne tomberons pas. Et nous tiendrons ferme. De Pierre 1,10 nous dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Nous avons été tous choisis par Dieu. Nous avons été appelés de Dieu. Le Seigneur produit la foi en nous. Le Seigneur nous accompagne dans notre cheminement avec lui. Ne négligeons pas ce qui est à notre disposition. Que cette année soit une année de progrès, une année de victoire dans notre marche avec Dieu, aussi bien personnellement qu'en tant que communauté. Moi, je veux croire encore à des grandes choses au niveau de l'Épi. Je veux croire à des libérations encore au milieu de nous. Je veux croire à des vies transformées, à des gens qui viennent ici pour une première fois, qui ne repartent jamais comme ils sont entrés la première fois. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que notre Dieu est le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Je veux croire que par la prière de ceux qui s'appuient sur Dieu, qui disent Seigneur, on a besoin de ta grâce, nous allons voir le miracle de Dieu s'accomplir. On veut croire encore pour des guérisons au milieu de nous. On veut croire pour des vies transformées au milieu de nous. On veut voir des familles changer, peut-être des couples qui se déchirent, qui repartent ensemble, main dans la main, qui s'aiment. Parce que ça, c'est l'Évangile. C'est que l'Évangile rebâtit sur des ruines. On chante ce chant. Il est celui qui rebâtit sur des ruines. Et de ces ruines-là, il en fait des demeures solides. Parce qu'il règne au milieu de la demeure. Mon désir, c'est que l'Église soit le temple du Seigneur encore pour cette année 2017. Que ma vie soit le temple du Seigneur pour 2017. Que nous prenions la résolution de nous appuyer sur Dieu davantage. Et nous verrons sa grâce se manifester encore en cette année. Rien de nouveau finalement dans le programme de 2017. Comme l'a dit Michel tout à l'heure, le calendrier, on a juste changé de date. Mais rien ne changera si on ne décide pas de changer certaines façons de faire. Si on ne décide pas de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Donc ce message-là, ce n'est pas des nouvelles clés, 5 clés pour obtenir la faveur de Dieu. Ce n'est pas 5 étapes pour obtenir la délivrance. C'est simplement une intimité renouvelée. Une intimité renouvelée. Qui nous conduit à plus de profondeur avec Dieu. Une intimité renouvelée qui nous invite à refléter Christ dans notre quotidien. Jérémie 6,16 nous dit, et je veux le lire dans ma version Semeur, voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes et regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc, et vous y trouverez du repos pour vous-même. Pas de recette miracle. Pas de clé. La Bible dit que nous avons tout en Christ. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puisque le Saint-Esprit est au milieu de nous, rien n'est impossible. On peut se lever tous ensemble. Je vous remets de cette année, chacune de notre année, personnelle, en tant qu'Église, on veut se présenter devant Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour et ta grâce. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés l'année qui s'est écoulée. Et par la foi, nous nous approchons de toi avec assurance, sachant que 2017, elle est déjà entre tes mains. Seigneur, tu n'es pris au dépourvu par rien. On ne sait pas ce qui peut encore s'abattre sur nos vies personnelles, on ne sait pas ce qui va encore s'abattre, peut-être sur notre nation, sur notre monde. Mais nous savons que tu es là. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Ma prière, Seigneur, mon désir, c'est que tous puissions croître dans notre relation avec toi pour cette nouvelle année. Seigneur, je te prie pour que, sur nos lieux de travail, là où tu nous places, Seigneur, que notre témoignage soit vivant. Seigneur, je te prie peut-être pour que les uns et les autres, nous puissions changer d'attitude. Peut-être lorsque nous sommes confrontés à des situations où on se moque de quelqu'un, où on parle d'une personne ou d'une autre avec des mots qu'on ne devrait pas employer. Je te prie pour que nous puissions être ces lumières du monde, Seigneur. On ne veut pas marcher avec les méchants, on ne veut pas rire avec les moqueurs. Mais Seigneur, reflétez ton nom encore pour cette nouvelle année 2017. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous donnes la persévérance au travers des combats, des difficultés qui ne vont pas manquer encore de s'abattre. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en toi, parce que tu es celui qui nous assure la victoire. Seigneur, on veut croire, Seigneur, que des miracles vont encore prendre place au milieu de nous en cette année. On veut croire que la faveur de Dieu, que la grâce va encore se manifester au sein des épreuves. On veut croire, Seigneur, encore à des victoires, Seigneur, au milieu de nous. On veut croire à des délivrances au milieu de nous. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu fidèle. Nous voulons nous appuyer sur ta bonté, sur ta fidélité encore pour cette année 2017. On veut croire, Seigneur, que là où nous sommes bloqués à cause de nos impossibilités, Seigneur, toi, tu es le Dieu d'impossible qui va accomplir encore le miracle et qui va communiquer ta vie au milieu de nous. Seigneur, nous nous attendons à toi encore pour toute cette année, Jésus. Je te remets mes frères et sœurs, ceux qui traversent encore des combats, des difficultés, ceux qui traversent la maladie. Seigneur, je te prie vraiment de les encourager, de les fortifier. On te prie pour une paix surnaturelle encore, Seigneur. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie de les mettre au large encore. Au milieu des tempêtes, tu es Dieu, Seigneur. Rien ne peut renverser ta gloire. Rien ne peut renverser ta grâce. Seigneur, nous nous attendons à toi, en toi encore, pour cette année avec toi. Seigneur, je te remercie encore de bénir chacun, chacune, ceux qui ne sont pas présents, ceux qui sont encore en famille, Seigneur. Étends ta main, Père éternel. Merci pour tout ce qui va encore prendre place, Seigneur. Ce que nous voulons bâtir, Seigneur, c'est ce qui vient de toi. Seigneur, on ne veut pas multiplier des actions pour multiplier des actions, mais simplement répondre, être un écho, Seigneur, à ce que tu déposes dans nos cœurs. Seigneur, on ne veut pas chercher nos désirs à nos volontés. Mais Seigneur, notre prière, c'est que tes volontés s'accomplissent pour les pieds en plus, pour cette année 2017. À toi la gloire, Jésus.